Je vais commencer par un petit témoignage me concernant. Le titre de mon message aujourd'hui est « Quel lépreux es-tu ?» Je suis désolé, hein. C'est pas gay, hein, comme... Il y a quelque temps, votre serviteur a eu des problèmes de vessie hyperactive. Comme il y a maintenant un peu plus de 3 ans, j'ai eu un cancer de la prostate, l'urologue m'a prescrit des analyses et une recherche de cellules malignes. 2 mois se sont écoulés avant de revoir l'urologue qui m'a annoncé que tout était normal, mis à part quelques cellules inflammatoires. Ouf, plus peur que le mal. Comme une bonne nouvelle n'est jamais seule, il m'annonce que maintenant il ne me verra plus qu'une fois par an puisque le suivi est top, le suivi de mon cancer est top. Plus rien d'alarmant, donc tout est normal. Je suis parti le cœur léger. Ce n'est que plus tard, alors que j'annonçais les résultats à une amie qui me demandait des nouvelles, qui était au courant de ce que j'avais rendez-vous avec l'urologue, ce n'est que plus tard que j'ai pris conscience de mon ingratitude envers le Seigneur. Pas une seconde, je n'avais remercié Dieu. C'est cet ami catholique avec qui je partage souvent qui a prononcé cette belle parole. Merci Seigneur. Par la suite, sous la pression de Jean-Louis, quand je me suis inscrit pour cette prédication d'aujourd'hui, le choix de ce passage s'est imposé à moi. J'ai bien tenté une réflexion sur un autre thème, aller voir ailleurs, mais non, pas possible. Il a fallu que j'étudie ce passage. Et je vous propose de lire ensemble. Est-ce que Jean-Louis, tu peux lire ce que je vais afficher? Si ça veut marcher.
Bien. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Pour y entrer dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. »
Merci Jean-Louis. Nous connaissons tous ce passage. Vous avez dû, tout comme moi, entendre plusieurs prédications sur ce passage. Un seul est revenu, et cet homme est un Samaritain. Alors les Samaritains, moi... Pour moi, c'était pas les copains des Juifs, et puis ils s'entendaient pas. J'ai voulu creuser un petit peu, alors je vais vous une petite note historique. Ils étaient les descendants des colons, originaires de Babylone, Cutha, Ava, Amat, Sepharvaïm, qui avait amené le roi d'Assyrie Sargon dans les villes de Samarie. On peut lire ces passages dans 2 Rois 17-24. Afin de remplacer les Israélites qu'il avait déportés à Chala. Ça, c'est dans 2 Rois 17, verset 6. On connaît leur malheur jusqu'au jour où un prêtre, d'entre les captifs, fut rapatrié pour leur enseigner la manière de servir le Dieu du pays. Et on lit toujours cela dans 2 Rois 17. Il en résulta un syncrétisme, un mélange de religions, assez spécial. D'autres colons arrivèrent encore sous Assaradom et sous Assurbanipal, qui tout en offrant des sacrifices au Dieu d'Israël, n'oublièrent pas tout à fait leur Dieu. Toujours en 2 Rois 17, on peut lire cela. Au retour de l'exil, les Juifs de Jérusalem, décidés à reconstruire leur temple, reçurent une délégation de Samaritains, venus offrir leur collaboration. On dit ça dans Esdras. Repoussés, les Samaritains en conçurent un vif dépit, d'autant plus qu'ils ne réussirent qu'à interrompre les travaux qui furent repris et menés jusqu'au bout. Dans la 6e année du règne de Darius, le temple était reconstruit. Les Samaritains n'empêchèrent pas non plus Néhémie de relever les murs de Jérusalem, malgré leur attitude particulièrement hostile. Écartés de Jérusalem, ils bâtirent un temple sur le mont Garizim, en rivalité de plus en plus ouverte avec celui de Sion. Jean Hyrcam détruisit ce sanctuaire quand, en 129 avant Jésus-Christ, il conquit la Samarie. L'hostilité méprisante entre juifs et samaritains était toujours vive à l'époque de Jésus, comme on peut le lire dans les évangiles en Luc 9 et en Jean 4 et suivant. Si pour les juifs, les samaritains étaient des étrangers, ceux-ci, individuellement, avaient cependant quelques qualités. La foi messianique, comme nous pouvons le lire dans Jean 4, et le récit de la Samaritaine. La reconnaissance, en Luc 17, dans notre passage. Le dévouement et la pitié, en Luc 10, le récit du bon Samaritain. Il fallait de la part de Jésus un certain courage pour oser ainsi souligner ce que ses compatriotes se faisaient par parti pris un devoir de méconnaître. Le christianisme fut prêché aux Samaritains par Philippe puis par Pierre et Jean. On peut lire cela en Actes 8. En 67 après Jésus-Christ, Vespasien détruisit Sichem. Mais la ville fut reconstruite et reçut le nom de Flavia Néapolis, aujourd'hui Naplouse. On y voit encore une petite colonie de Samaritains groupés dans un quartier très fermé et gardant fidèlement les anciennes coutumes. On sait qu'ils n'admettent dans la Bible traditionnelle que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Leur grand prêtre, chef de la communauté, est choisi dans la même famille. Il préside aux cérémonies cultuelles dont la plus caractéristique est celle du sacrifice, à la fête de la Pâque, de 7 agneaux blancs apportés en pèlerinage au sommet du Garizim. De beaucoup plus intéressant est le type ethnique qui nous est ainsi conservé par une communauté restée particulièrement fermée, où l'exogamie est interdite. Ils n'ont pas le droit de se marier avec une autre personne extérieure à leur groupe, malgré une dénatalité menaçante. Chez les Samaritains d'aujourd'hui, et grâce à eux, on retrouve un peu de la physionomie des Assyriens amenés en Palestine il y a quelques 2600 ans. C'était une petite note historique, mais ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur les Samaritains, comme je vous disais au début, qui pour moi n'étaient pas aimés des Israélites. Mais je n'avais jamais cherché la réelle raison, tout comme je n'avais pas fait le lien entre eux et le rebâtisseur du temple de retour d'exil. Un seul est revenu. Et les 9 autres, que sont-ils devenus? Sont-ils allés au minimum se montrer aussi sacrificateurs? Ou bien se sont-ils empressés de retourner à leur affaire courante? Dans le livre « Le commentaire biblique du disciple », nous pouvons lire à propos de ce passage. Le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie du disciple. C'est ce qu'illustre l'histoire des 10 lépreux. Se rendant à Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Jésus était en chemin pour Jérusalem, le long de la frontière qui séparait Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à ta distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. » Le commentaire nous dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux l'aperçurent. Leur condition de lépreux les empêchait de s'approcher de qui que ce soit. aussi crièrent-ils à distance et demandèrent-ils au Seigneur de les guérir. Celui-ci honora leur foi en leur disant d'aller se montrer au sacrificateur. Cela supposait qu'en arrivant chez le sacrificateur, ils seraient guéris de la lèpre. Le prêtre n'avait lui-même aucun pouvoir de les guérir, mais il était mandaté pour les déclarer purs. Obéissant à l'ordre du Seigneur, les Lébreux se dirigèrent vers la maison des sacrificateurs. Pendant qu'ils y allaient, ils furent miraculeusement guéris de leur terrible maladie. Nous continuons avec le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et de nouveau, et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Toujours dans le commentaire, nous pouvons lire : Tous avaient eu la foi pour être guéris, mais un seul revint sur ses pas pour remercier le Seigneur. C'était un Samaritain. L'un de ses voisins méprisait des Juifs qui n'entretenaient aucune relation avec eux. Arrivé au pied de Jésus, l'endroit approprié pour adorer, il tomba sur sa face. La juste attitude pour adorer. Le Seigneur lui demanda s'il n'était pas dit avoir été guéri et s'étonna qu'un seul, cet étranger, soit revenu pour donner gloire à Dieu. Où étaient donc les 9 autres ? Aucun d'entre eux n'est retourné pour remercier. Le commentaire de ce passage se termine. Puis il dit : Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Se tournant vers le Samaritain, le Seigneur lui dit : Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Seuls les 10% qui montrent de la reconnaissance héritent des véritables richesses de Christ. Le Seigneur salue notre demi-tour vers lui et notre gratitude en nous accordant de nouvelles bénédictions. Les paroles « Ta foi t'a sauvé » suggèrent que si les 9 autres ont été guéris de la lèpre, seul le 10e a été sauvé du péché. Sœurs et frères, quels lépreux sommes-nous ? Faisons-nous partie des 10% qui reviennent jour après jour remercier Jésus ? Ou sommes-nous comme ces 90% qui considèrent que Christ a fait son boulot ? Comme nous avons pu l'entendre dans le commentaire, ils avaient foi en Jésus. Mais leur foi n'était-elle pas que dans les pouvoirs de Jésus ? C'est-à-dire, il était un bon enseignant, il faisait des miracles, il a ressuscité des morts, c'est un prophète. Ces 90% se sont peut-être dit : Allons-y, après tout, qu'est-ce que nous risquons ? Au point où nous en sommes, on peut tenter le coup. N'a-t-il pas multiplié les pains, ressuscité Lazare, guéri les malades ? Alors allons-y. Et ils y allèrent. Jésus ne les toucha pas. Il leur dit simplement : Allez vous montrer au sacrificateur. Cet envoi de Jésus me fait penser à Élisée en voyant Naaman se laver dans le Jourdain. Élisée lui fit dire par un messager : Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Élisée n'est même pas sorti pour voir Naaman. Il lui fit dire d'aller dans le Jourdain. Contrairement à cela, Jésus s'adressa à eux directement, leur disant d'aller se montrer au sacrificateur. Notons aussi au passage que les 10 ont encore pleinement foi en Jésus et en son pouvoir de guérison, puisqu'ils ne râlent pas, contrairement à Naaman qui ne voulait pas, et vont où Jésus les envoie. Et pourtant, ils n'étaient pas encore guéris lorsqu'ils se mettent en route. Il leur fallait du courage, car les règles étaient strictes Pour éviter la contagion, l'Ancien Testament avait établi des normes sévères. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. En Lévitique 13, on peut dire cela. Les prêtres étaient autorisés à déclarer publiquement que quelqu'un était lépreux et aussi à annoncer sa guérison, afin qu'il fût permis de regagner la société. Jésus les envoie donc vers les sacrificateurs, alors qu'ils ne sont pas guéris. Ils se mettent en route, et voilà. Leur foi en Jésus est récompensée. Mais un seul revient, et c'est un Samaritain. Les neuf autres sont sauvés de leur affliction terrestre, mais pas du péché. Comment expliquer l'attitude des neuf autres? Les neuf étaient juifs. Ils faisaient partie de la maison. Après tout, ils devaient tout simplement penser que c'est normal qu'un prophète juif fasse quelque chose pour eux et que le Dieu d'Israël les guérisse. Ils sont contents, mais pas au point de retourner dire merci. Eux, qui étaient regardés comme des parias et des rebuts de la société, ils sont redevenus des êtres normaux. Et le problème quand on est normal et que tout va bien, c'est qu'on arrive parfois à oublier de remercier. Le Créateur nous tient dans l'existence à chaque seconde. Il nous fait exister par amour, on le sait. Mais hélas, la nature humaine est telle que nous avons vite fait d'oublier quand tout va bien et se focaliser quand tout va mal. L'ingratitude des neuf lépreux, qui nous paraît difficile à comprendre à la lecture de ce passage, ne ressemble-t-elle pas parfois curieusement à la nôtre? Ce que Jésus attend de ses disciples, c'est qu'ils soient à l'image de ce Samaritain qui revient en rendant grâce à pleine voix et qui se jette la face contre terre à ses pieds. Sœurs et frères, je nous invite à prendre le temps de prier et remercier Dieu chaque fois que cela nous est possible. Si parfois il arrive que, pris dans l'euphorie de la vie, nous oublions de le faire, revenons vite à Jésus, qui nous connaît mieux que quiconque. Il est celui qui intercède pour nous à chaque instant. Amen.